Jean Lorrain, La chambre close. L'hostilité de certains logis et de certaines chambres de province, leur air mortuaire et fermé, jamais je ne l'avais si profondément ressenti que cette triste et pluvieuse matinée d'octobre, quand la porte de la haute pièce où le valet de ferme venait de déposer ma valise, presque silencieusement, d'elle-même se referma. Qu'étais-je venu faire par cet automne malade dans ce pavillon perdu dans les bois, et moi qui suis le plus piètre chasseur du monde et qui, joint à une instinctive indolence, une horreur presque physique des armes à feu, quelle malsaine idée m'avait pris de venir suivre ici les battues en forêt du marquis de Hauterre et de quitter Paris, le boulevard et le journal pour m'enterrer vivant dans ces mornes futaies à la veille de Cléopâtre et de la grande rentrée de Réjeanne dans la pièce de Meillac. Quitte à paraître fou, ma conviction est qu'en venant m'échouer presque involontairement dans cette forêt délabrée par l'automne et si étrangement solitaire, je fus l'instrument d'une volonté inconnue, plus puissante que la mienne, et que je jouais là inconsciemment un rôle dans un drame d'au-delà. Qui pouvait avoir autrefois habité ce vieux pavillon Louis XIII, à la haute toiture d'ardoise, guillochée de lucarnes et si tristement isolé au bord de cette mare encombrante, raie de feuilles mortes au plus profond de ces grands bois? Il appartenait depuis des siècles à la famille des Hauterre, et le père du marquis actuel l'avait transformé en maison de garde. Moment des chasses, on y logeait les invités qui n'avaient pas pu trouver place au château. Ça avait été mon cas. Dès mon arrivée en gare, une carriole de ferme m'avait accueilli, moi, ma valise et mon inévitable nécessaire, et par les cépés humides m'avait emmené, tout secoué par les chaos des ornières, dans le mort de carrefour, mi-prairie, mi-clairière, où s'élevait le pavillon des bois. La maison du garde des marquis de Hauterre, son air étrange de détresse et de mystère au bord de cette eau morte, au milieu de ce pré de foin et d'herbes folles pourrissant sous la pluie, et les hautes girouettes de son toit criant au vent d'octobre dans le silence épais, le silence complice des futaies assoupies comme ouatées de brume, sans écho et sans voix. Dès mon entrée dans le haut vestibule, dallé de blanc et noir, l'impression que je pénétrais dans un drame inconnu s'accentua. La chambre qu'on m'avait assignée était située au premier étage, et deux grandes fenêtres, drapées de longs rideaux d'antique soie déteinte, la faisaient vaste et claire, au milieu de la tristesse de ce ciel noyé d'eau et de cette forêt morne. Et pourtant, instinctivement, en passant le seuil, j'avais étouffé mon pas comme en entrant dans la chambre d'un malade. Il flottait encore comme une odeur d'éther ranci, et partout, dans le lampaf, fané des rideaux de jadis, sur les fauteuils d'un luxe âgé étroit, sur le baldaquin du lit et le marbre poli d'une vieille console, la poussière, neige noire des défuntes années, semblait n'avoir jamais été dérangée depuis de bien longs mois. Chambre étrange, on eût dit qu'elle avait un secret d'une chose très triste et dont elle était lasse d'avoir vu le mystère en fuite dans la glace. Ces vers exquis de Rodenbach me sont redevenus depuis à la mémoire à propos de cette chambre effectivement étrange et qui certes avait elle aussi un secret et un regret enfoui dans l'autrefois de sa mélancolie, solitude et silence. Ce grand silence hostile que dérangeait aujourd'hui ma venue d'invité dans ces bois. Impression de courte durée d'ailleurs, on m'attendait à déjeuner au château. Comment, après une journée passée à battre les taillis et une curée de 17 chevreuils inscrits au tableau, l'esprit égayé par l'heureuse diversion d'un dîner de 22 couverts dans le hall de chasse de Hauteur, le sang ragaillardi par les crues aux côtés d'une cape fameuse, et la pensée à 100 lieues des pénibles impressions du matin, me réveillai-je à minuit dans ma chambre, à la maison de garde, la nuque moite de sueur et le cœur éteint par le plus indicible malaise. Froid du frisson de la petite mort, je me dressai sur mon séant. On avait négligé de fermer les rideaux des deux fenêtres placées au pied de mon lit, et dans la chambre agrandie de silence, le clair de lune entré par les carreaux donnait mollement sur le parquet, et au cri houleux, comme une mer, la bataille des nuages chassés par le vent d'ouest, et contre les vitres, le pianotement de la pluie automnale, de la monotone pluie. Tout à coup, dans la chambre voisine, un vieillard de gavotte chanta. Un air de clavecin si dolent et si pâle qu'on l'eût éveillé sous d'invisibles mains. Quelqu'un était là, dans la pièce à côté, derrière la cloison, cela était certain. Et maintenant, dans le silence et dans la nuit de la maison déserte, la musique, d'abord tâtonnante, se dégageait en rythmes nuancés et précis, musique d'antan, lentement exhumée, Ariette ou Chaconne aux grâces mélodiaires et fluettes, vieillère fardée de l'autre siècle. Et qu'on croirait appris aux lèvres des portraits. Mais j'étais bien cette nuit-là aux réminiscences des poètes. Tout à ma terreur grandissante, j'écoutais, dressé sur mes deux poings crispés dans l'oreiller et la sueur aux épaules, avec l'angoisse atroce que quelqu'un allait entrer, quelque être de l'inconnu qui rôdait à côté et dont les deux mains d'ombre s'attardaient en ce moment à un clavecin oublié dans la pièce voisine. Et près de défaillir, je sentais mon cœur flotter dans ma poitrine et mes yeux agrandis par la peur devenir somnambules, quand un grand souffle effleura mon visage et à travers la soie de mes rideaux, de lit étrangement froissé, une plainte, une voix d'âme pleura dans mes cheveux, du cou hérissé droit. Emmenez-moi, emmenez-moi. La voix prononça la phrase par deux fois. Fou d'horreur, j'avais bondi tout nu au milieu de la chambre. Alors j'entendis, oh, très distinctement, le bruit d'une fuite de pas sur le parquet, le claquement d'une porte que l'on referme, le cri d'une clé tournant dans une serrure, et ce fut tout. Le clavecin à côté s'était tu, et dans ma chambre éclairée par la lune, les rideaux de fenêtre d'un rose glacé tombaient droits sans un pli. Dehors, la pluie avait cessé, et sur le ciel nocturne d'un gris laiteux et pâle, trois grands êtres poussés près de la maison du garde balançaient leurs cimes bruissantes au vent frais de la nuit. Le sang-froid m'était revenu. Le revolver au poing, j'allais droit à la porte de communication de la chambre voisine. J'essayais vainement de l'ouvrir. Elle était fermée à double tour et résista à tout effort. J'allais alors à celle du corridor. La clé que j'avais mise moi-même en dedans n'était plus sur la serrure, et là je tentais aussi, mais vainement, d'ouvrir. J'étais enfermé et la chambre était close. Fiévreusement, j'allumai une bougie, passai un pantalon, un veston, enfilai des pantoufles, ayant barricadé les deux portes, l'une d'une commode traînée au travers, l'autre d'une grande bergère aux coussins ramagés de rose et vert pâle, je m'installai dans un fauteuil à la tête de mon lit et les pieds enroulés dans une couverture, ouvris le dernier livre d'Anatole France, bien décidé à veiller jusqu'à l'aube. Et je me réveillai à 10 heures du matin, déshabillé et couché dans mon lit. Debout à mon chevet, le garçon de ferme, attaché comme valet de chambre à ma personne dans cette étrange maison de garde, attendait mes ordres respectueusement quoi. Mais quelle heure est-il donc? Ce fut là mon premier cri. Mais 10 heures et demie? 10 heures et demie, alors les autres chassent. Oh, mais depuis 7 heures, monsieur peut entendre d'ici les coups de fusil. Et comment, vous m'avez laissé dormir? Oh, monsieur sommeillait si bien. Monsieur avait l'air si fatigué et si heureux de dormir. Monsieur était si pâle, ma foi. Je n'ai pas osé réveiller monsieur. Je l'ai laissé dormir. Voici le chocolat de monsieur. Et d'un geste gauche, le gars me désignait le plateau posé sur ma table de nuit. Évidemment, j'avais rêvé. Cependant, un doute restait, et tout en terminant ma toilette, le garçon allant et venant dans ma chambre. Et la chambre à côté, essayais-je de dire négligemment. Je m'arrêtais, effaré moi-même de la brusque altération de ma voix. La chambre d'à côté, pardonnait le garçon. Oui, la chambre d'à côté. Quelqu'un y couche, y a couché cette nuit. Oh, la chambre d'à côté, oh que non, monsieur. Personne n'y couche plus. Les portes sont condamnées. Oh que non, personne n'y couche plus dans la chambre de madame la marquise. La chambre de madame la marquise. Oui, c'est là qu'est défunte la mère de monsieur le marquis. Oh, il y a longtemps de ça. Oh oui, il y a bien une trentaine d'années de ça. C'est tout ce que je pus tirer de ce garçon. Je le congédiai une fois seul. Essaye bien de coller mon œil au trou des serrures, peine perdue. Les persiennes de la chambre voisine devaient être closes ou les portes garnies de tentures. Impossible de rien distinguer. Ma curiosité sorta à une muette obscurité de tombe. La nuit suivante, je couchais au château. Au déjeuner, où je trouvais le moyen d'arriver en retard, le marquis, en s'informant de la façon dont j'avais passé la nuit dans ce pavillon isolé de la forêt, s'excusa d'avoir été forcé de me donner un si mauvais gîte. Mais, ajouta-t-il avec un équivoque sourire, un de mes hôtes est parti ce matin. Sa chambre est libre et François apportera cet après-midi votre bagage ici. Vous dormez au château cette nuit. Et ce fut tout. J'avais sans doute été victime d'une hallucination. Mes nerfs, d'imaginatifs impressionnés par l'aspect de détresse et de morne abandon de ce pavillon solitaire, avaient travaillé sur eux-mêmes pendant mon sommeil, et mon cauchemar n'avait été en somme que ce que sont tous les cauchemars, la prolongation douloureuse hors de l'état de veille d'une pénible sensation. Et pourtant, depuis que je sais que la marquise Simone Henriette d'Auterre, la mère de mon hôte, est morte à 28 ans, quasi folle ou du moins, la famille l'a prétendu, les uns ont dit, séquestrée par la jalousie d'un mari d'un autre âge, dans cet isolé si bizarrement morose pavillon des bois, je me suis demandé si je n'avais pas la vie à des hasards. Pénétré malgré moi dans quelque affreux mystère, s'il n'avait pas été mêlé une nuit d'entre mes nuits à quelque drame d'au-delà. Et puis, dans le trouble de mes souvenirs d'hier, mais qui déjà m'apparaissaient lointains et reculés, Oh, si lointain déjà. J'avais oublié de dire. Le matin de ma terrible nuit visionnaire, qu'avais-je trouvé en rôdant par la chambre sur le marbre poudreux d'une des consoles? Une rose, une pâle rose blanche, toute lourde de pluie, aux pétales humides, à longues tiges, souples, dépouillées d'épines, donnant dans la poussière et dans la poussière l'empreinte de 5 doigts. Mais cette fleur et cette empreinte, qui les avait mises là?